Elle est avec nous en studio. C'est notre chroniqueuse politique, Jacinthe Ève Harel. Comment ça va?
Ça va bien. Je suis contente de vous voir.
Ben, je suis contente de te voir aussi. Bon vendredi matin.
Bon vendredi.
Pas trop déprimé hier, la petite neige qu'on a eue, là, sur, un petit blip sur le radar là, en début printemps.
Non,
là, non
ça, hein. Ça fait un petit sol blanc. Là, c'est super.
Ouais, on n'est pas à Montréal non plus. Hein, fait que... non. Ça, ou Sherbrooke. Je dis tout le temps à Montréal, mais Sherbrooke, c'était pas beau non plus. Là. Gatineau l'a eu assez rough.
J'ai eu à faire la route Québec-Montréal pendant la tempête hier. Donc okay. j'ai vu les deux tableaux. Là. Le tableau de Montréal est beaucoup plus enneigé, puis ça avait l'air d'une catastrophe.
Ramène-moi à Québec, puis vite.
Oui. Pourtant, on est habitué à de la neige. Il faut arrêter d'en faire une histoire.
Hey, Jacinthe, je veux qu'on commence avec un exercice qu'on commence à faire plus régulièrement, mais je trouve ça vraiment cool. Lorsqu'on a un politicien ou une politicienne à l'émission, t'écoutes l'entretien, la discussion, l'entrevue, appelle ça comme tu veux. Puis après ça, tu nous donnes tes commentaires ou des points que peut-être qui ont capté ton attention. Une petite analyse. Hier, on avait le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, avec nous en studio. Comment tu as trouvé la discussion? Puis est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qui est sorti du lot, selon toi?
Bien, je trouve ça intéressant qu'il mentionne, que Gabriel Nadeau-Dubois mentionne le fait que Justin Trudeau, dans sa multiplication des annonces, il profite d'une faiblesse ou d'une grande lacune dans les gouvernements provinciaux et même municipaux pour finalement venir pallier à certaines lacunes de certains élus qui n'exercent pas leur champ de compétences avec autant d'efficacité qu'ils le souhaiteraient. Et ben dans ce temps-là, ben c'est une belle plateforme pour Justin Trudeau pour dire ben je vais venir régler les problèmes des citoyens à la place des élus qui ne le font pas. Donc, effectivement, ils profitent de l'inefficacité de François Legault dans certains champs de compétences pour venir s'ingérer. Bien sûr, Gabriel Nadeau-Dubois dénonce cette ingérence-là.
C'était-tu une pointe facile ou c'est fondé, selon toi?
C'est une pointe facile et fondée.
Les deux!
Oui, tout à fait. Donc, c'est facile parce que ça va pas bien dans plusieurs domaines qui touchent les citoyens. Le logement, les soins de santé, tous les services L'éducation. Très près des citoyens. Oui, justement, il y a même, bon, quand il parle de revitaliser les villes ou de nettoyer les villes, effectivement... Donc, tout ce qui touche les citoyens, on est à même de constater qu'on n'est pas dans une belle période, on n'est pas dans une période de croissance, on n'est pas dans une période où on reconstruit, on est dans une période désolante. Donc, si on est dans une période désolante, c'est le champ parfait pour un politicien qui veut être populiste puis dire « Hey, moi, je vais régler tous ces problèmes-là. »
Ouais. En même temps, le logement, tu sais, on l'a laissé aller pour de vrai. Là. Je regardais à Québec, moins 40% de construction de logements en 2023. La CAQ a nié pendant longtemps la crise du logement. Puis là, il faut l'arriver à 0,9% de taux d'inoccupation. Fait que Justin Trudeau n'a pas tort non plus. Ben, même Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas tort de dire « Hey, c'est notre laxisme qui nous amène là. »
Oui, oui, tout à fait. Il faut prendre en charge. Puis... À ce chapitre, moi, je crois à l'importance d'avoir une fédération décentralisée, puis c'est important pour moi que Ottawa assure son plein champ de compétences, mais qu'il laisse l'autonomie aux provinces. Je suis pour ce principe-là, mais en même temps, je comprends aussi la vision. Bon, c'est une vision électoraliste, il en profite, Justin Trudeau, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus laisser les choses aller, puis à un moment donné, bon, c'est un jeu facile d'un point de vue électoraliste, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand les élus en place ont laissé aller des situations, ben, qu'il y en ait un qui dise ben, « je vais me retrousser les manches puis je vais faire ce qu'il faut ». Bon, c'est pour gagner mes élections, c'est pour pas trop perdre de sièges aux prochaines élections. Donc, l'objectif non avoué n'est pas nécessairement noble, mais c'est vrai qu'il faut faire quelque chose.
Jacinthe, avec ton expérience, est-ce que c'est quelque chose de nouveau que le fédéral se mêle des provinces? Dans ce cas-ci, évidemment, on parle du Québec. Ou ça a toujours été là, puis là, on en parle peut-être un petit peu plus, parce que peut-être qu'ils mettent un petit peu plus le nez dans les affaires du Québec?
Je pense que ça s'est déjà fait, mais pas en autant de fois en un aussi court temps.
Okay,
un
aussi court laps de temps.
Mais oui, là, c'est rendu que la prochaine annonce, on sent déjà, on l'attend déjà que ça va interférer avec soit les villes, soit les provinces. Donc, c'est quand même particulier qu'il y ait autant d'annonces qui ne respectent pas la Constitution canadienne, finalement, qui ne respectent pas les champs de compétences. Puis c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde s'en fout un peu d'où l'argent vient. L'important, c'est que quelqu'un prenne en charge. Mais en même temps, autant d'annonces en aussi court laps de temps. Ça démontre aussi qu'il est mal pris, qu'il est désespéré puis qu'il est prêt à tout, finalement. Mais c'est un manque d'éthique puis un manque de travail en collaboration avec les autres élus. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut, des politiciens qui ne s'entendent pas, qui ne collaborent pas avec les autres élus puis qui font juste jeter des pavés dans la mare comme ça?
Puis en faisant ça, est-ce que, puis là, je reviens plus vers le palier provincial, mais est-ce que Justin Trudeau n'est pas en train de donner aussi, sans le vouloir évidemment, mais un coup de pouce au Parti québécois puis Paul Saint-Pierre Plamondon, que là, la menace de la souveraineté peut avoir encore plus de poids avec une CAQ qui sent cette menace-là, du moins c'est l'avis de, c'est ce que projette Paul Saint-Pierre Plamondon en disant, voyez, la CAQ sans la menace de la souveraineté n'a aucun poids. Nous, si on est au pouvoir, on a la menace de se séparer, puis le fédéral n'aura pas le choix de nous écouter puis d'arrêter de jouer dans nos plates-bandes.
Oui, ça donne des munitions au Parti québécois. Moi, ce que je comprends pas, c'est vous receviez hier Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Ouais. Justement, lui, ouais. Il ne se sert pas de ça pour promouvoir la souveraineté. Alors, ça renforce la perception que Québec solidaire voit la souveraineté du Québec comme un moyen pour mettre en place son plan plus de gauche, son plan très... son plan de société beaucoup plus à gauche. Donc, il le voit plus comme un moyen que comme une fin. Parce qu'il aurait pu justement décrier la même chose puis dire regardez, parce qu'il dénonce l'ingérence, j'allais dire l'incompétence. Il dénonce l'ingérence.
Il y a les deux là-dedans.
Ouais,
là.
À un moment donné, on ne s'y trouve plus. Mais il dénonce l'ingérence, mais sans en faire une raison pour évoquer l'importance de faire la souveraineté. Paul Saint-Pierre Plamondon, ben lui, il saute là-dedans à pieds joints. Donc oui, c'est sûr que ça donne des munitions. Et ça va aussi talonner la coalition Avenir Québec qui n'aura pas le choix de jouer le jeu nationaliste un peu plus fort parce que là, on a un terrain de jeu parfait pour se battre pour le respect de notre
nation, ouais. de notre Québec, si ouais. on va dire comme ça. Comment ça, la CAQ, par contre, est si faible présentement dans sa relation avec le gouvernement fédéral? T'sais, font une sortie sur l'immigration, finalement, Justin Trudeau dit non, ça reste comme ça. Veulent 6 milliards en santé, ils en ont juste 900 millions, t'sais. Comment ça, la CAQ n'est pas capable d'avoir plus de résultats tangibles?
C'est une question extrêmement importante parce que la Coalition Avenir Québec, dans son premier mandat, a même ouvert le bureau du Québec à Ottawa.
C'est vrai.
Donc, on a un bureau à Ottawa qui a été ouvert. On a des gens qui sont nommés là, qui sont payés à temps plein pour travailler les relations avec Ottawa. Et c'est la CAQ qui a mis ça en place en 2019.
Puis avoir de l'influence auprès du gouvernement fédéral.
Oui, exactement. Donc, on s'est doté d'une infrastructure puis d'un nouveau mécanisme pour aller proposer nos idées puis améliorer nos relations avec Ottawa. Et malgré ça, ça va pas bien. Malgré ça, il y a peu de collaboration, il y a peu d'entente. Les deux politiciens, François Legault et Justin Trudeau, auraient mutuellement avantage, en plus, à travailler ensemble.
Ben
parce
oui,
qu'ils démontreraient qu'ils sont là pour les Québécois, ils sont là pour le Québec, et les deux sont en perte de vitesse importante au Québec. Alors moi, je ne m'explique pas. Je me dis, aïe, il faut vraiment qu'idéologiquement puis personnellement, il n'y ait pas de fit entre ces deux individus-là et même entre les deux équipes pour qu'il n'y ait pas un avantage qui soit perçu de part et d'autre pour tirer un apprentissage de ça puis dire hey, on va tirer avantage puis on va montrer qu'on est là pour le Québec, mais pas du tout.
T'sais, ben, je peux pas croire qu'on est encore dans la guerre d'égo parce que M. Legault a dit voter conservateur, ouais. Que Justin Trudeau fait ça au Québec. À un moment donné, là, faut que l'ego prenne le bord puis qu'on travaille pour les citoyens, qu'ils soient au Québec, en Colombie-Britannique ou en Ontario.
Que l'ego prenne le bord, t'as dit?
Donc,
l'ego.
Non, mais je me suis posé la même question. Je me suis dit, voyons, y en tiens-tu encore? Est-ce que Justin Trudeau tient encore rigueur à François Legault d'avoir déjà dit qu'il fallait voter conservateur? Peut-être, mais effectivement, c'est un petit coup qui s'est donné il y a déjà plusieurs années, quelques années. Mais je pense que peut-être que Justin Trudeau est conscient que de toute façon, si ce n'est pas les conservateurs qui rentrent au Québec, ce sera le Bloc québécois, mais que les libéraux, c'est mort de toute façon. Donc, il met son énergie ailleurs. Mais ce mépris pour le Québec, parce que c'est aussi ça, ça va rester dans l'histoire de M. Trudeau, ça, c'est clair.
Dans le dossier, troisième lien, Jacinthe-Ève, la CAQ, dans la dernière semaine, dit pas nécessairement la même chose. Bon, finalement, le lendemain, on essaye de redire la même chose, de revenir sur la bonne piste ou la bonne page. Qui dirait dans le dossier, Jonathan Julien ou Bernard Drainville?
Oui, parce que les deux interprètent pas de la même façon ou n'ont pas utilisé les mêmes mots pour décrire le mandat qui a été donné à la Caisse de dépôt et de placement dans l'évaluation des transports. Puis, est-ce qu'on doit se pencher sur la question d'un troisième lien ou pas? Tu sais, ils sont coincés, les deux, là. Ministre responsable de la Capitale-Nationale, Bernard Drainville, qui doit servir ses citoyens, qui veulent un troisième lien. Les deux sont coincés, les deux espèrent et attendent beaucoup de la Caisse de dépôt et de placement. Je trouve pas que c'est pertinent d'en faire un débat et d'essayer de les coincer là-dessus. On sait que les deux ont mis la pression à la hauteur de ce qu'ils pouvaient sur la Caisse de dépôt, sur le Conseil des ministres, sur le gouvernement, pour s'assurer qu'il y ait une proposition d'un lien. Là, est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils l'avouent à demi-mot, est-ce que dans les faits, leur intention, leur souhait est clair? La Caisse de dépôt et de placement le sait. Dans le mandat qui a été confié, ça dit qu'il faut évaluer le lien. Ça ne parle pas d'un lien, mais ça parle de la mobilité interrive. Oui. La mobilité interrive, c'est sûr que moi, quand j'entends ça, ça sous-entend, tu vas regarder la mobilité interrive, donc l'évaluation d'avoir peut-être un troisième lien. Là. Mm-hmm.
La logique dirait que oui. Là,
oui, ça, c'est ça. Donc là, qu'on dise que ça a été... Je sais pas, je trouve qu'on a fait une grosse histoire. Oui, la Caisse de dépôt doit regarder cet enjeu-là. Si tu regardes la mobilité dans la grande région de Québec, Lévis, tu dois regarder ça.
T'as pas le choix.
C'est dans son mandat. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'elle doit proposer un troisième lien? C'est là où là, on peut jouer sur les mots des politiciens.
Et on joue beaucoup sur les mots.
Ben justement, ma question allait dans ce sens-là, parce que moi, une des choses qui me fascine, c'est à quel point certains disent troisième lien, puis certains parlent vraiment de... Puis en fait, non, c'est pas vrai. Personne quasiment dit troisième lien. Même Bernard Drainville parlait plutôt de lien interrive, nouveau lien interrive. Puis ça, aux yeux de certains, ça pourrait être, mettons, une voie réversible.
Ouais.
Que ça, la CAQ pourrait considérer ça comme un nouveau lien interrive. Toi, tu le vois-tu comme ça?
Bien, effectivement, ça peut être perçu comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut arrêter de parler de troisième lien. Est-ce qu'ils ont pris l'approche que je préconise d'arrêter de parler de troisième lien pour parler d'un autre pont? Ouais. Parce que moi, je souhaite un autre pont. Un nouveau lien, parce que c'est pas un troisième lien.
Non.
Donc, est-ce qu'ils ont décidé de changer le vocabulaire pour arrêter de parler d'un troisième lien? Parce que, en ce qui concerne le camionnage, le transport lourd, ce serait un deuxième lien. Parce que les ponts, les camions ne peuvent passer que sur Pierre-Laporte.
Ouais.
Donc, en termes...
Sinon, Trois-Rivières.
Exactement. Puis, le pont Pierre-Laporte a besoin de travaux majeures. Les suspentes ne sont pas terminées d'être changées. Donc, peut-être que c'est un changement de vocabulaire seulement, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont percevoir ça comme simplement le changement de paradigme sur nos deux ponts actuels.
En terminant, Bruno Marchand a fait une sortie à Boston contre la CAQ concernant le projet de tramway, les délais, les coûts. Puis là, depuis qu'il est revenu de Boston, il s'éloigne des journalistes. Et là, il y a plusieurs personnes, dont Claude Villeneuve, qui a dit « Coudon, s'est-tu fait fermer le clapet par la CAQ? T'en penses quoi? »
Bien, c'est soit qu'il s'est fait fermer le clapet ou soit qu'il a réalisé qu'il est allé trop loin ou que ça joue contre lui. On le saura jamais, mais c'est sage de sa part. C'est sage de sa part que la commande vienne d'ailleurs ou qu'il ait pris conscience lui-même qu'il dérape et qu'il n'y a pas avantage à faire ça. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable.
Jacinthe Varel, notre chroniqueuse politique, toujours, tu le sais, un immense plaisir quand tu passes nous voir. Et je pense que tu voulais ajouter un petit peu à la discussion et le débat d'hier par rapport aux batailles dans la Ligue nationale.
On va en parler combien de temps?
Tant et aussi longtemps que...
Quelqu'un arrive dans le studio
craquer bien raide par rapport à ce sujet-là. T'étais d'accord avec Jeff?
Ben oui, je suis rentrée dans le studio en disant « Moi, je suis ton côté, Jeff. » Mais c'est sûr que batailles dans le sport professionnel, c'est inadmissible.
Mais attends! On est encore pas autour de la bonne question. Est-ce que tu vois ça puis ça t'excite?
Non. Pas du tout.
C'est les hommes toxiques.
Hey, je suis allée voir un match de boxe au Centre Vidéotron il y a quelques mois. Il y avait de la boxe. Mais c'est leur sport de se taper dessus. Puis je me disais, Colin, qu'on est barbare. Ça n'a pas de bon sens. On paye des tickets pour venir voir ça.
C'est
barbare. On n'est plus là au 21e siècle.
Si un match de boxe t'excite pas un petit peu, Jacinthe, c'est sûr qu'un combo...
Je vais avoir l'air d'une vraie féfille.
Non, non, non.
On t'aime comme ça. On te souhaite une magnifique fin de semaine. Puis on se reparle parle très bientôt.
Oui.
Restez là après la pause. Troisième heure de Rage Against le matin à Boulevard 101, la radio qui vous envoie à San Francisco cet été. Rage.